La chronique environnement. Nous sommes avec Adeline Bédoc de la LPO Limousin. On poursuit notre conversation sur la migration. On va parler des records atteints par ces oiseaux. Par exemple, jusqu'à quelle altitude on a pu les observer voler ?
La hauteur maximum qui avait été observée, c'était à 11 000 mètres.
11 000 mètres, d'accord.
C'était un cas exceptionnel et on n'a pas vraiment su pourquoi l'individu en fait était monté à cette hauteur-là. Mais c'est-à-dire que c'est fortement possible. Ce qui est plutôt impressionnant puisque par rapport aux conditions vitales, ça peut avoir des conséquences hein, ouais. sur le rythme. Le climat est très différent, il fait beaucoup plus froid ou beaucoup plus chaud. Donc on remarque en fait qu'il y a des compétences et que finalement des espèces qui paraissent sensibles sont peut-être moins dans ces moments-là. Cet individu, malheureusement, avait été percuté de plein fouet en fait, par un avion. Donc c'était un cas exceptionnel.
D'accord, ah oui, ok.
Voilà, mais donc pourquoi ? Est-ce que c'était une désorientation ou au contraire, quelque part, une recherche dans son contexte, lui, de mission d'aller à un endroit à un autre ? C'est possible. Après, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, sur des petites espèces, donc des plus petits oiseaux, on a remarqué que c'était aussi des capacités qui pouvaient monter extrêmement hautes, hein, des fois à 5 000, 6 000 mètres de hauteur, donc ce qui peut être vraiment énorme pour certains individus.
Tant qu'on est dans les records, est-ce que tu as d'autres chiffres un peu impressionnants, notamment les distances au maximum que ces oiseaux peuvent parcourir.
Alors oui, on a par exemple la sterne arctique, qui ressemble à une petite mouette. La sterne est impressionnante puisque par exemple, par an, elle va faire 70 km, voire plus, donc ce qui est largement...
70 000
Oui. Oui. Oui, j'ai pas dit ça.
J'ai entendu le 70, mais pas le 1000.
D'accord,
mais...
70 000 km par an, ce qui est vraiment énorme. Ou parfois, par exemple, on va avoir les grues cendrées qui vont traverser la France, mais en 24 heures. Donc, on se rend compte un peu de la vitesse. Et comme on le disait aussi, c'est pour ça qu'on est assez exfoliés quand on les voit et qu'il faut se dépêcher de les regarder, puisqu'en fait, elles font réellement un passage qui peut être très court pour nous à l'œil nu, mais qui est vraiment une vitesse incroyable en temps réel pour elles.
Ils peuvent voler à 100 km/h à peu près, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. Elles atteignent en moyenne, en pointe de vitesse, elles atteignent 100 km/h. Si on prend des rapaces type Milan, en moyenne, ils vont être sur du 50-55 km/h en vol. Donc, ce qui n'est pas non plus tout doucement. Mmh. C'est plutôt assez rapide. Ensuite, on a aussi des individus qui vont être impressionnants, mais plutôt par leur état physique, cette transformation. Donc, à contrario de nombreuses personnes, là, le but va être prendre du poids et pas d'en perdre. C'est avantage parce que c'est fait exprès, tout simplement, parce que la migration, c'est très coûteux, comme on l'a dit. Donc, on va parcourir plusieurs jours. Il y en a qui ne font pas de halte, donc qui vont, par exemple, enchaîner sur une trentaine de jours, presque tout un mois sans arrêt. Donc, ils vont carrément faire doubler leur poids. Et c'est le cas, par exemple, pour un petit passereau, le phragmite. Des gens qui va doubler son pas, donc on passe de 11 grammes à 22 grammes en moins d'un mois, donc c'est plutôt énorme, mais ça permet en fait tout simplement de résister plus longtemps, puisque une fois que les ressources sont finies, il va falloir redescendre pour aller manger, mais ce qui veut dire prendre du temps, faire la pause, donc ne pas arriver forcément le premier sur les lieux, et en sens inversé, quand c'est la période de reproduction, il vaut mieux être le premier sur le lieu pour choisir la meilleure zone et avoir son territoire. Mmh.
Premier arrivé, premier servi, quoi.
C'est ça.
Tout à l'heure, tu disais qu'il y a des individus qui pouvaient se perdre. Quels sont un peu les phénomènes qui pourraient venir les perturber ? Et je pense notamment aux certains appareils fabriqués par les êtres humains, quoi, peut-être.
Oui. À ce niveau-là, on a souvent, par exemple, les éoliennes.
Ah oui.
Les éoliennes peuvent être très dérangeantes, puisqu'on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais on a de la migration qui se fait de nuit. C'est aussi une technique. Certains oiseaux choisissent de plutôt se nourrir en journée et parcourir la nuit, puisqu'il y a beaucoup moins d'ascendance, donc moins de, on va dire, d'obstacles physiques par rapport au vent. Donc, ce qui va permettre une économie aussi d'énergie, donc moins s'épuiser. Mais ce qui est problématique au niveau des éoliennes, c'est que la petite pointe de lueur, de lumière rouge qui reste éclairée, va perturber l'individu qui va pouvoir avoir envie, on va dire, de se diriger droit devant sur les roulaines et avec les hélices qui tournent, ne pas en fait voir l'hélice et tout simplement se prendre l'hélice de plein fouet. Donc ça arrive très régulièrement, même en journée. Hein, on a de nombreux cas en journée qui se prennent les éoliennes. Donc elles ont, par rapport à leur champ du visible, elles peuvent être vraiment dérangeantes à certains endroits, surtout dans le cadre d'un champ migratoire. Donc tout à l'heure, on parlait de couloirs migratoires, donc sur des zones strictes où c'est des zones serrées, où il y a vraiment un chemin précis. Si l'éolienne se trouve sur ce chemin, dans tous les cas, l'oiseau va l'emprunter et risque de se faire en fait prendre par l'éolienne. Il y a aussi tout ce qui est fil électrique, c'est un peu le même principe. Bon, là, il n'y a pas de petite lueur, mais si ça se retrouve sur les champs des oiseaux, elles peuvent indirectement en fait, aller sur les fils. Surtout que dans la vue des oiseaux, quand vous mettez par exemple des stickers pour éviter le choc contre les vitres, on va plutôt proposer de mettre les stickers de façon en diagonale pour être vraiment mieux adapté à la vue de l'oiseau. Alors que si elles sont mises de manière horizontale, toute droite, c'est un risque pour qu'elles ne soient pas vues au moment du vol en fait, par l'oiseau. Donc il y a aussi ce côté-là. Après, on a aussi tout simplement d'autres risques qui ne sont pas forcément des risques matériels, mais plutôt un risque humain où on va en fait faire des chocs par les tirs. On a certaines espèces qui sont considérées comme gibier ou autorisées de chasser. Donc, quand on a de la migration, on a un nombre d'espèces qui va se faire tirer. Donc, on essaye aussi de faire, on va dire, de la prévention là-dessus ou éviter, puisque c'est des périodes importantes, déjà coûteuses en énergie, mais qui peut être difficile pour l'espèce, donc pour toute une population qui survit à cela. Donc, on va essayer d'éviter ces périodes qui sont déjà rudes pour elles, de leur ajouter, de se faire tirer à la fin, puisque c'est dommage de parcourir des kilomètres ou d'avoir mis toute cette énergie là-dedans.
Vous, à la LPO, vous faites du suivi, on en a parlé, vous faites de la communication, ce qu'on est en train de faire un petit peu, parler justement, parler des oiseaux, c'est un peu votre rôle. C'est quoi les autres rôles un peu de la LPO? Et est-ce que vous avez des actions pour aider peut-être, je ne sais pas quoi, les oiseaux migrateurs quoi?
Alors oui, on va avoir ce côté où on va faire par exemple de la médiation faune sauvage, on appelle ça. Quand vous avez des individus par exemple qui font une halte ou qui se posent au sol, souvent par exemple pour la période de reproduction, là on a les jeunes individus qui sont très récurrents, donc on en voit très souvent au sol. Mais on va faire de la prévention pour éviter par exemple un ramassage précoce. Donc quand vous avez un individu qui fait une halte, ce n'est pas forcément un individu qui n'est pas bien, au contraire, tout simplement en train de se ressourcer. Donc on va éviter de le prendre, de le déplacer, parce que s'il est venu là, c'est pour une raison, on ne va pas lui rallonger son parcours, ou tout simplement on va éviter, pour certains comme les plus jeunes, de les enlever de leur habitat. Quand vous enlevez en période de reproduction un jeune de son habitat, vous lui enlevez en fait tout simplement son site ou son présent, ses parents, et du coup où il ne va plus avoir d'apprentissage, d'éducation ou de nourrissage par les parents. Donc en fait on fait quelque part un kidnapping, et l'oiseau se retrouve orphelin, il va falloir s'en occuper. Donc c'est une charge en plus pour les centres de sauvegarde. Donc nous, à ce niveau-là, on va essayer de faire une petite préconisation là-dessus pour éviter et savoir reconnaître, on va dire, un individu qui est réellement en danger ou pas. Et on va faire le relais à ce moment-là au centre de soins qui, lui, va prendre en charge l'individu s'il est nécessaire de le prendre en charge. Après, on fait beaucoup d'enquêtes participatives. Le principe de l'enquête participative, c'est aussi de faire connaître la diversité des espèces existantes sur un territoire, donc la richesse d'un territoire, puisqu'on parle souvent de culture, de patrimoine, mais la nature est aussi notre patrimoine naturel qui nous est offert gratuitement, donc il faut savoir aussi le reconnaître. Et à ce moment-là, les enquêtes participatives, le but, c'est de nous permettre de mieux recenser les espèces. Dernièrement, on avait eu l'enquête hirondelle, par exemple, sur les mois de juin et juillet, qui permet de recenser en fait tous les nids qui sont occupés ou vides pour avoir une estimation de l'état de la population. Donc connaître, on va dire, quelque part aussi, par exemple, on est en un fort taux de nids occupés. On va pouvoir avoir une estimation de se dire, bah, tiens, à l'année prochaine, on aura potentiellement une meilleure reproduction, donc plus d'individus, plus de jeunes. Donc vraiment savoir si l'espèce va augmenter ou si au contraire, elle est en train de décliner. Donc plus de nids vides qui ont été, par exemple, aussi cassés, puisqu'il y a aussi, soit tout simplement l'acte humain, on l'a enlevé, ou d'autres espèces qui les ont attaquées. Donc les corps vidés, ça arrive très souvent. Par exemple qu'on ait des pies déjà ou autres qui peuvent impacter sur les nids. Donc voilà, ça permet vraiment de suivre, on va dire, les espèces. En ayant une aide sur les suivis, on a vraiment, je pense, les clés pour savoir comment s'adapter à demain. Puisqu'on ne peut pas deviner ce qui se passe en interne dans leur petite tête, on va dire, leur envie, leur souhait d'aller se retrouver ou de se reproduire à un endroit, mais on aura une idée potentielle de ce qui peut arriver et ce qui va nous permettre, en fait, nous, de mettre en place, on va dire, des protections pour éviter que, justement, ils s'entrechoquent ou, justement, qu'ils ne trouvent pas de maison ou leur proposer une source de nourriture. Donc, comme là, avec les chaleurs, nous, on le sait bien, ça augmente, on en a conscience. Eux, peut-être pas, ils vont continuer leur trajet, leur chemin. Ils le ressentent puisqu'il n'y a plus d'épuisement. Donc, ils s'adaptent à une variation, peut-être sans avoir conscience et se dire « Ah bah tiens, tu remarques bien qu'il fait chaud par rapport à hier. » Mais nous, on va le savoir. Donc, on va leur proposer, par exemple, des coupelles d'eau en le faisant attention, puisqu'il ne faut pas faire aussi les choses n'importe comment. Par exemple, en changeant l'eau au moins tous les deux jours, en nettoyant un petit peu la coupelle, éviter les parasites, on va essayer de vraiment prendre soin comme si nous on était parents à ce niveau-là en fait des oiseaux.
Si on veut rejoindre l'association, vous contacter, avoir le programme de tous les événements que vous organisez sur le Limousin, comment on fait pour vous joindre?
Alors vous pouvez vous rendre directement sur le site de la LPO Limousin, donc qui est limousinlpo.fr. Ça va vous permettre tout simplement de retrouver un peu toutes nos actions, mais également notre calendrier papier qu'on retrouve en ligne, puisqu'on a un calendrier papier qu'on fait tous les 4 mois. Donc ça, quand vous êtes adhérent, vous le recevez directement chez vous, mais sinon vous pouvez le trouver tout simplement au stand de nos bénévoles ou à notre bureau à Aix-sur-Vienne pour vous le fournir. Ça va vous permettre tout simplement de nous suivre, soit participer, soit profiter d'un moment en famille aussi, puisque c'est l'occasion de faire quelque chose aussi pour vous, mais également de nous aider sur certains comptages ou tout simplement de vous sensibiliser, de s'animer, de débattre sur tout sujet, tout est intéressant à ce niveau-là. Et vous pouvez également nous écrire tout simplement à limousin@lpo.fr si vous avez des questions plus précises sur l'association.
Merci beaucoup Adeline Dédoc.
Merci Fabien.
Et à bientôt pour une prochaine chronique environnement. Au revoir.
Au revoir.